Il est 12h30 et vous écoutez France Culture. Le journal de la mi-journée vous est présenté par Antoine Mercier. Bonjour Antoine.
Bonjour Caroline, bonjour à tous. Les policiers manifestent pour dénoncer ce que leur syndicat appelle la haine anti-flic à Paris. Rassemblement sur la très sollicitée place de la République où on va retrouver dans un instant Antoine Marette. Les cheminots débraient aujourd'hui et demain pour la quatrième fois depuis mars dernier pour défendre leurs conditions de travail à un moment où les règles du secteur sont remises à plat par l'ouverture à la concurrence, suivie d'Hakim Kasmi. Les députés poursuivent l'examen du projet de loi de modernisation de la justice, justice au XXIe siècle, dont l'objectif est de désengorger les tribunaux, notamment par la possibilité de divorcer sans jugement, explication et enjeu avec Alexandra Vieira. L'actualité à l'étranger des primaires démocrates, Hillary Clinton remporte de justesse le Kentucky, mais Bernie Sanders enlève l'Oregon et promet de rester dans la course à l'investiture jusqu'à la fin. Au Venezuela, manifestation convoquée par l'opposition aujourd'hui pour exiger un référendum afin de révoquer le président Nicolas Maduro. L'opposition appelle même l'armée et la population à la désobéissance. Analyse d'Éric Biegala, l'invité du journal Jean Lassalle, député MoDem des Pyrénées-Atlantiques, candidat à la présidence de la République. Et dans la dernière partie, on retrouvera Caroline Brouet en direct de Cannes pour la dernière partie de la Grande Table. La police donc à la une, les policiers sont dans la rue, 2 mois après des affrontements parfois violents, en marge de la mobilisation travail. Ils sont appelés donc à se rassembler pour dénoncer ce que les syndicats de policiers appellent la haine anti-flic. Ce sont des rassemblements la plupart du temps statiques dans une 60aine de villes et à Paris donc ils vont se retrouver. Ils se sont retrouvés depuis maintenant quelques minutes sur la très sollicitée place de la République où se réunit, on le sait, chaque soir aussi depuis fin mars, ce fameux mouvement Nuit Debout. Antoine Marette, bonjour.
Bonjour.
Et les collectifs qui dénoncent les violences policières avaient appelé aussi à manifester sur cette même place, juste avant le rassemblement donc des syndicats de police, une contre-manifestation qui a été interdite. Les forces de l'ordre donc protègent pour l'instant ces lieux pour le rassemblement qui se tient en ce moment.
Ce qui fait effectivement très concrètement qu'il y a ce midi 2 rassemblements bien distincts, place de la République. Le premier autorisé autour de la statue au centre de la place. L'UNSA, Alliance, CFE-CGC ont appelé donc à ce rassemblement contre, je cite, la haine anti-flic. Ils sont pour l'instant quelques centaines de policiers en civil à manifester leur lassitude 2 mois après le début de la mobilisation contre la loi du travail. De nombreuses manifestations ont dégénéré en violence, notamment à Paris, Rennes et Nantes, et selon les autorités, 350 membres des forces de l'ordre ont été blessés. L'autre rassemblement interdit, celui-là, c'est celui de la contre-manifestation. Une centaine de personnes, en partie issues de la mouvance anarchiste, a tenté de se diriger vers le centre de la place. Ces personnes ont été repoussées par les forces de l'ordre, parfois sans ménagement, repoussées jusqu'au boulevard de Magenta, où elles se trouvent désormais. On a pu entendre les slogans habituel, police casse-toi, Paris n'est pas à toi, flic port assassin, Pétain revient, t'as oublié tes chiens. Vous l'entendez Antoine, place de la République, on est désormais très loin de janvier 2015 quand les manifestants embrassaient les policiers après les attentats.
Antoine Marette, merci beaucoup, place de la République. Le climat social est donc très tendu, les violences émaillent souvent les défilés, le gouvernement et les syndicats d'ailleurs dénoncent des casseurs. Ce qui paraît curieux tout de même, c'est qu'ils n'ont pas été encore identifiés apparemment, ces casseurs mis hors d'état de nuire. Et ils nuisent effectivement à la fois aux policiers, mais aussi au mouvement social, Catherine Dutu.
Des casseurs cagoulés dont l'anonymat perdure également dans le discours politique. Fermeté contre les casseurs, répètent le président François Hollande et le ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve, sans apporter de précision sur leur profil. Du côté des syndicats de police, on est un peu plus disert. Si des troubles ont éclaté à Rennes ou à Nantes, par exemple, ce n'est pas un hasard, proximité géographique et idéologique avec les zadistes de Notre-Dame-des-Landes, même profil d'activistes selon une source policière, des militants radicalisés à gauche, mais aussi des anarchistes, voire des membres des Black Blocs, des membres de la mouvance autonome, des militants antifascistes. Si les policiers semblent aussi bien renseignés, pourquoi alors n'interviennent-ils pas rapidement pour éviter la casse? C'est la question que se posent plusieurs syndicalistes. Georges Boulanger, secrétaire de la CGT dans le Nord-Pas-de-Calais, Pas-de-Calais. À son explication, dans les pages de La Voix du Nord, il porte une double accusation suite aux affrontements qui ont eu lieu jeudi dernier dans le centre-ville de Lille. Ces casseurs avaient été repérés en fin de cortège, indique le secrétaire régional de la CGT. La police les a laissés s'intégrer et la coupure du cortège nous a ensuite empêchés de manifester. En cause également, toujours selon ce responsable de la CGT, le gouvernement. Le recours au 49-3 va mobiliser plus de monde. Maintenant, soit le gouvernement retire son texte, soit il entre dans un rapport de force. Un rapport de force qu'on a encore vu à l'œuvre hier à Paris, par exemple, où des manifestants pacifiques dans les rangs des centrales syndicales ont une fois de plus reçu des gaz lacrymogènes. Une réponse policière, autre source potentielle de radicalisation. Et l'on referme la boucle, le gouvernement réaffirme sa fermeté. Reste à savoir si cet affichage politique sera suivi des faits dans les prochains jours.
Catherine Dutu, merci beaucoup. En matière d'affichage, effectivement, Stéphane Le Foll, porte-parole du gouvernement, affirme à l'instant qu'Hollande apporte un soutien très clair aux policiers. Alors pour rendre compte complètement de ce climat de tension et l'éclosion donc sporadique, on le voit, de ces incidents violents, il faut prendre en compte sans doute le rôle des vidéos qui circulent en ce moment et depuis le début sur les réseaux sociaux. Tout ou presque est d'ailleurs filmé maintenant, on le sait, et ça facilite pas beaucoup le recul ou la réflexion. Catherine Pétillon.
Oui, le plus souvent on y voit les forces de l'ordre charger les manifestants, des coups portés ou encore des jets de projectiles de part et d'autre. Alors collectif de journalistes indépendants, souvent militants, manifestants ou simples riverains, ils sont de plus en plus nombreux à poster ces vidéos. Les blessés, eux, partagent aussi leurs photos, des visages défigurés par des tirs de grenades de désencerclement, des yeux rougis par les lacrymos, des plaies après des coups de matraque. Le mouvement évolue devant les objectifs, parfois en direct avec l'application Periscope. Les policiers, eux aussi, caméra à la main, réfléchissent de leur côté aux manières d'utiliser leurs propres images. Tout cela participe donc à une montée en pression et ce qui circule ainsi, ce sont des images parfois accablantes pour les forces de l'ordre. La vidéo d'un élève du lycée Bergson à Paris, frappé par des policiers au début du mouvement, a été vue plus de 2 millions de fois. Elle a abouti à une enquête de l'IGPN, la police des polices, et un procès est à venir. Une vidéo montrant deux personnes menottées, place de la République, et frappées par des CRS, a elle été vue plus de 250 000 fois. Mais suivre les manifestations depuis les réseaux sociaux, c'est aussi constater un effet de loupe, la place prise par ces milliers de gros plans sur les armes, les fumées, les masques, des images à l'impact visuel fort et une forme d'esthétique d'une violence qui fascine parfois, en galvanise certains et constitue un genre lui-même, genre qui, s'il n'a pas attendu le numérique pour accompagner les mouvements sociaux, s'est largement développé depuis.
Merci beaucoup Catherine Pétillon. Salut notre invité Jean Lassalle, bonjour.
Bonjour.
Ah, excusez-moi, j'ai dit que vous étiez député modèle. Mais vous êtes mis en congé du Modem et que vous l'êtes donc simplement député non inscrit, simplement si je puis dire, parce que vous êtes aussi maintenant parti dans une campagne. On va en parler. Qu'est-ce qui se passe en ce moment, Jean Lassalle? Vous suivez ce mouvement évidemment de près, même vous y participez à certains moments. Qu'est-ce qui se passe dans le pays? Est-ce que c'est grave?
Disons, c'est l'accélération d'un processus que nous avons été quelques-uns à décrire depuis une dizaine d'années. Et je dois dire que notre radio, parce que dire France Culture, c'est presque un pléonasme, c'est monté en haut, vous voyez. La France, c'est la culture, c'est la France. En tout cas, je suis très heureux, je tiens à vous le dire, cher Antoine Mercier, d'être des vôtres. Eh bien, ce qui se passe, c'est que nous avons une France qui est dans un moment où elle ne s'aime pas, elle n'a pas de repères, elle ne voit pas où elle est. Et dans ces cas-là, eh bien, elle fait un peu n'importe quoi. Et moi, je crains une France qui reste dans cette situation, parce que c'est une France pré-révolutionnaire, à deux doigts de la guerre civile, ou les deux, mais qui peut aussi transformer cette grande période de tensions qui ne disent pas leur nom, à une période de lumière et de printemps retrouvée.
Voilà, on a bien compris, période pré-révolutionnaire et peut-être avec vous, Jean Lassalle, transformation de ce moment difficile en moment plus encourageant, en tout cas pour l'ensemble du pays. On va en reparler dans la dernière partie de ce journal. On va dire quand même un mot de ce qui se passe aussi sur le plan social, puisque pour la quatrième fois depuis le début du mois de mars, les cheminots sont appelés à débrayer aujourd'hui et demain. Le trafic ferroviaire est perturbé, moitié des TER en circulation, deux TGV sur trois 3 en moyenne, grève à l'appel de la CGT et de Sud pour défendre donc les conditions de travail à un moment où, on le sait, les règles du secteur sont remises à plat en raison de l'ouverture à la concurrence, mais aussi également contre le projet El Khomri. Hakim Kasmi, bonjour.
Bonjour Antoine Mercier.
On voit finalement que converge la politique du gouvernement actuel et puis celle de la Commission européenne.
Oui, la réforme de la convention collective que veut mettre en place la SNCF et que dénoncent les syndicats vise clairement à gagner en compétitivité. L'entreprise ne s'en cache pas. Si elle veut faire face à la concurrence du privé qui arrivera à partir de 2020 pour le trafic voyageur, cela devra passer par une harmonisation des conditions de travail afin qu'elle soit plus proche de celle du ferroviaire dans le privé actuellement. Résultat, le nombre de repos hebdomadaires sera réduit pour les conducteurs de la SNCF, 117 actuellement, ils passeront à 104 par an. Idem pour ceux qui travaillent de nuit, les conducteurs qui ne devaient pas rouler plus de 7h30 pourront rouler jusqu'à 8h la nuit. Enfin, la prise de service, elle aussi, va changer. Un conducteur qui pourra récupérer son train jusqu'à 50 km et aussi terminer son service jusqu'à 50 km de chez lui. Autant de modifications qui, selon les syndicats, auront un impact sur la fatigue des conducteurs et donc par ricochet sur la sécurité des voyageurs. Mais au-delà de l'union de façade, les syndicats restent divisés entre eux, alors que Sud appelle à la grève tous les jours jusqu'au 11 juillet, au lendemain de la finale de l'Euro de football en France. La CGT, elle, appelle à la grève chaque mercredi et chaque jeudi. Quant à la CFDT et l'UNSA, réformateurs, si pour l'instant ils ne sont pas dans une logique de grève dure, ils préfèrent d'abord la négociation, ils n'excluent pas de durcir le mouvement avec la CGT et les autres syndicats s'ils n'arrivent pas à obtenir des négociations qui vont dans leur sens.
Hakim Kasmi, merci. Les routiers ont par ailleurs reconduit leur mouvement de protestation avec des actions de blocage encore et des barrages filtrants, notamment dans l'ouest du pays. Les compagnies aériennes prévoient d'annuler demain 15% de leurs vols à Orly. François Hollande menaçait hier les organisations patronales d'une modification de la loi si rien ne se fait au sujet de la rémunération des dirigeants d'entreprise. Après les polémiques notamment sur les salaires de Carlos Ghosn, PDG de Renault, et de Carlos Tavares, celui de PSA. Ce matin à l'Assemblée, la commission des affaires sociales examinait une proposition du Front de Gauche qui visait à encadrer ces rémunérations des dirigeants d'entreprise, un texte qui préconisait un écart de 1 à 20 entre le salaire le moins élevé et le plus élevé dans une même entreprise. Proposition concrète, mais qui, malgré les déclarations d'intention, ne semble guère avoir de chance d'aboutir ou d'être adoptée. Pour quelle raison, au fond, Marie Viennot ?
Ce n'est pas un plafonnement des salaires que proposent les députés Front de Gauche. Ils s'en expliquent dans l'exposé des motifs. Le mécanisme peut aussi permettre de relever les salaires les plus bas. Autrement dit, si les conseils d'administration du CAC 40 veulent conserver une rémunération moyenne de 4 200 000 euros par an pour leur PDG, comme c'est le cas en ce moment, rien ne les empêcherait de porter le salaire le plus bas à 17 500 euros par mois. À ce compte-là, ce n'est plus un coup de pouce au pouvoir d'achat, mais un effet turbo. Mais bien sûr, cela a peu de chances d'arriver. Quant à limiter par le haut le salaire des PDG, le gouvernement l'a fait en juillet 2012 pour les entreprises publiques. Pour le privé, c'était promis à l'été 2013 et on attend toujours. Alors pourquoi cet immobilisme ? Eh bien, l'un des obstacles est juridique. Cela dépend des contrats, mais un PDG peut avoir un statut de salarié. Or, les règles permettant de réduire les émoluments d'un salarié sont strictes et souvent conditionnées à l'accord de celui-ci. Imagine-t-on les patrons du CAC 40 accepter une baisse drastique de leur rémunération ? Difficilement. Mais l'obstacle majeur est ailleurs. C'est comme souvent que cette limitation n'existe nulle part. Barack Obama l'avait annoncé en 2009 pour les entreprises américaines aidées par l'État, mais cette décision fut peu appliquée. Toujours la peur de voir les cerveaux fuir sous des cieux plus cléments. L'inflation à la hausse des salaires des patrons est un sujet sur lequel rien n'avancera sans coordination internationale. Or, elle n'est pas prévue. Une directive européenne en discussion prochainement prévoit d'accorder plus de pouvoir aux actionnaires. Mais comme la proposition des députés du Front de Gauche, le texte est loin d'être acté.
Marie Viennot, par ailleurs, les députés poursuivent l'examen du projet dit de modernisation de la justice du 21e siècle. Le ministre Jean-Jacques Urvoas explique que l'objectif de la réforme, c'est de désengorger les tribunaux et notamment par la possibilité de divorcer sans jugement en faisant enregistrer une convention chez un notaire, le divorce étant effectif après un délai de 15 jours de rétractation. Jean-Jacques Urvoas parle d'un texte pragmatique et concret. Souvent, ce sont des termes qui cachent, Alexandra Viera, des changements plutôt fondamentaux.
En France, le juge est une figure tutélaire. On aime à ce qu'il soit celui qui achève le processus judiciaire. Difficile de le remplacer. Mais les syndicats de magistrats remercient le garde des Sceaux pour sa tentative de désengorger la justice. Ils admettent que la charge de travail est très importante et qu'un peu de simplification ne ferait pas de mal. L'Union syndicale des magistrats, syndicat majoritaire, va encore plus loin. Pour elle, il ne faut pas faire du juge la bonne à tout faire de la République. Ces réformes sont certes des petites gouttes d'eau, mais qui peuvent changer les choses. Céline Parizeau, secrétaire générale du syndicat, voit ce projet comme l'occasion de redonner du temps aux procédures qui en ont le plus besoin. Après tout, quel est l'intérêt d'avoir l'intervention du juge quand il n'y a aucune difficulté et que le divorce se fait par consentement mutuel pour prendre un cas précis, compter 8 minutes d'audience en moyenne. Si l'on y regarde de plus près avec le changement d'état civil, par exemple, la présence d'un magistrat ne semble pas essentielle. Il s'agit simplement de corriger l'orthographe d'un prénom. Mais les syndicats sont d'accord sur une chose. Ce qu'il faudrait pour aider la justice, c'est lui donner plus de moyens. Moins de dossiers à traiter, certes, mais plus de moyens serait la meilleure solution pour régler le problème.
Alexandra Vieira, merci. Un mot de l'actualité à l'étranger avec ses primaires démocrates où Clinton l'emporte de justesse dans la primaire du Kentucky face à son adversaire Bernie Sanders, lequel enlève l'Oregon et qui continue donc de résister à Mme Clinton, promettant de rester dans la course à l'investiture jusqu'à la fin. Et puis au Venezuela, surtout, c'est une journée à très haut risque ce mercredi avec des manifestations qui ont été convoquées par l'opposition pour exiger un référendum dans le but de révoquer le président Maduro. L'opposition appelle même l'armée et la population à la désobéissance, tandis que ce même président Maduro invoque une fraude pour écarter le référendum qui le menace. Eric Biegala, on a vraiment l'impression que le pays est au bord de l'insurrection ou du chaos.
Oui, c'est bien possible. Le chef de l'opposition, Enrique Capriles, l'évoquait hier, une bombe sur le point de détonner en parlant de son propre pays. Capriles devrait aujourd'hui, vous l'avez dit, défiler à la tête des manifestations convoquées ce mercredi à Caracas et dans les autres grandes villes du pays pour demander une fois de plus la tenue d'un référendum révocatoire visant le président Nicolas Maduro. Ce dernier a proclamé l'état d'exception ce week-end, prolongeant l'état d'urgence économique en place depuis janvier et donnant à la police, à l'armée, ainsi qu'à ce qu'il appelle les organisations de base du pouvoir populaire, des responsabilités dans le maintien de l'ordre. Cet état d'exception a été rejeté par le Parlement où l'opposition est majoritaire, mais cette décision parlementaire a toutes les chances d'être à son tour retoquée et par la Cour suprême qui, fidèle à Maduro, a systématiquement paralysé les décisions parlementaires depuis que l'opposition a pris la majorité en décembre dernier. L'affrontement politique qui fait rage au sein de ces institutions vénézuéliennes depuis le début de l'année risque aujourd'hui de se transposer dans la rue, opposant à Maduro d'un côté, forces de l'ordre et milices chavistes de l'autre. Dans ces organisations de base du pouvoir populaire, chères à Nicolas Maduro, on compte en effet les conseils communaux, mais aussi la milice bolivarienne, une milice armée, créée par Hugo Chavez en 2007 et qui en 2013 s'en était déjà pris aux manifestants anti-chavistes. Les affrontements avaient fait à l'époque au moins 43 victimes dans les rues de Caracas.
Éric Biegala, merci beaucoup. 12h47, retour vers notre invité, Jean Lassalle. Jean Lassalle, vous êtes donc candidat à la présidence de la République. Vous avez annoncé votre candidature il y a peu de temps. Comment ça marche? Ça démarre? Vous sentez un retour?
Ça gazouille. Ça commence à gazouiller, comme un début de printemps. Mais je veux dire, d'abord, parce qu'on dit rarement des choses agréables, je prends littéralement mon pied à écouter tour à tour les journalistes qui vous entourent.
C'est gentil.
Parce que ça, c'est de la radio à la française. D'abord, on comprend ce qu'ils disent, et à la fin, on a le sentiment de voir les questions, les réponses qu'on a pu faire. Alors, ceci étant, voilà. Oui, ça gazouille un petit peu pour moi, mais je ne suis qu'à mes débuts.
Je voudrais juste, avant de passer la parole à Stéphane Robert, pour continuer à voir un peu le sens de votre démarche et le contexte dans lequel elle s'inscrit, parler d'un autre candidat qui n'est pas encore candidat, qui se profile à l'horizon, c'est Emmanuel Macron. Et pour la première fois, eh bien, il y a un responsable socialiste qui a ce matin évoqué clairement la perspective de cette candidature du ministre de l'économie pour 2017, le maire socialiste de Lyon, Gérard Collomb, qui voit en M. Macron un candidat de substitution à François Hollande, donc pour cette présidentielle. On l'écoute, il était ce matin au micro de BFM TV.
Je crois que les choses vont se faire naturellement. Si au mois de décembre, François Hollande est toujours dans les sondages autour de 14-15 et que Emmanuel Macron est toujours aux alentours de 28-30. Évidemment qu'à un moment donné, il sera le candidat. Ce qui fait que les Français aujourd'hui adhèrent à Emmanuel Macron, c'est que c'est le seul qui voit que la France a changé. Tout le monde répète les mêmes formules qui étaient vraies il y a 20 ans, il y a 30 ans. La France bouge, la France change. Et Emmanuel Macron essaye de prendre en compte le changement qu'il voit sous ses yeux. Il est capable de réunir la France.
Donc Gérard Collomb, c'était avec Jean-Jacques Bourdin ce matin. Jean Lassalle, il ne s'est quand même pas le seul, puisque vous êtes là, vous aussi, à voir que la France est en train de bouger. Qu'est-ce que vous pensez de cette candidature Macron ?
Oui, d'abord, je voudrais dire à mon ami Gérard Collomb qu'il ferait mieux de mettre une paire de lunettes, parce que je le connais bien, je peux lui dire. J'ai quand même un tout petit peu bougé avant Emmanuel Macron. Certes, je n'ai peut-être pas le même niveau de notoriété, mais Emmanuel Macron, dont je salue tout à fait la démarche, je l'ai fait instantanément lorsqu'on m'a demandé. J'ai dit, rien qu'en prononçant deux mots, il a complètement ringardisé Juppé, Sarkozy, Hollande, Bayrou et tous les autres. Voilà. Mais il nous dit marchons, sauf que moi je l'ai fait. Lui il en parle.
Vous avez marché.
Ensuite, tout le monde est citoyen. Quand j'ai écrit Le retour du citoyen il y a 10 ans, Philippe Héraclès, le patron du Cherche Midi, m'a dit surtout pas ce titre malheureux, plus personne ne sait ce que c'est un citoyen, tu vas pas en vendre un seul. Je lui dis je veux le retour du citoyen. Tout le monde est citoyen. Alors, si M. Collomb voulait bien accepter de dire que nous sommes au moins deux en France à comprendre ou à essayer de comprendre ce qui se passe actuellement, j'en serais fort aise.
Mais lui, sur le mode libéral, Macron, libéral social, enfin libéral de gauche, encore qu'il faudrait définir ce que ça signifie, vous, pas forcément sur cette même ligne quand même.
Ah non, pas du tout. D'abord, qu'est-ce que vous voulez moi, je n'ai pas été chez Rothschild. Bon, remarquez, il ne suffit pas d'avoir fait un stage chez Rothschild pour diriger la France en même temps. Mais nous n'avons rien à voir. Je pense que c'est une opération bien menée par François Hollande, qui est un tacticien formidable, qui a vu qu'avec Valls, ça ne marchait pas trop fort, donc pour les calmer.
Mais c'est quoi son calcul alors ?
Son calcul, c'est exactement celui qu'a dit Gérard Collomb. Sauf que malgré tout, Hollande va se relégitimiser par la force des choses. Mais pendant qu'on parle de notre cher ami Macron, on ne parle plus du tout des primaires socialistes. Vous comprenez, c'est passé à l'as. Donc, on va passer maintenant tout le mois de juillet, tout septembre, octobre, et après, ce sera trop tard. Et après, Macron aura fait son petit tour de numéro pour se présenter en 2002, et Hollande sera prêt pour se présenter à son tour.
Voilà, bonne démonstration, excellent papier, vous aussi, Jean Lassalle.
Je suis pas mauvais, hein, des fois.
Voilà, vous pourriez venir dans la rédaction.
Vous considérez que c'est un adversaire, Emmanuel Macron. Vous avez d'ailleurs manifesté, vous étiez aux côtés des manifestants devant l'Assemblée nationale, alors qu'on discutait de la loi El Khomri qui a été en parti inspiré par Emmanuel Macron. C'est un adversaire politique pour vous, Emmanuel Macron ?
Mais c'est un adversaire, ça peut être un concurrent potentiel. Ceci étant, lui n'était pas là quand même auprès des policiers. Puis je peux vous dire qu'au milieu des boucliers, ça fait quand même drôle d'effet. Puis je disais aux policiers, je dis, tape pas si fort. Imagine que ce soit ton fils ou ta fille. Et d'ailleurs, il y a un policier qui m'a dit, mais monsieur le député, est-ce que vous viendrez nous défendre ? On va manifester nous aussi. Je ne savais pas que ce serait aujourd'hui. Donc en sortant d'ici, je fis de Place de la République les soutenir eux aussi.
C'est quoi, Jean Lassalle, votre caractéristique, on va dire, ce qui vous définit dans la démarche politique que vous entreprenez maintenant?
Moi, j'aime la politique. Je considère que la politique, c'est un art. J'aimerais être en haut de l'affiche, comme dit la chanson.
Ça ne suffit pas de vouloir être en haut de l'affiche.
Non, mais c'est
pour
pas
quel
ça.
Spectacle
c'est pour retaper la France. La France est dans une souffrance infinie, je l'ai dit tout à l'heure. Et on imagine des stratagèmes fumeux qui n'aboutit jamais. Pourquoi ? Parce qu'on n'a plus une once de pouvoir. Nous sommes dans un théâtre d'ombre. L'Assemblée nationale, c'est un théâtre d'ombre. Le gouvernement est un autre. La finance à qui on a libéré tout ce qu'on pouvait mettre à sa disposition depuis la chute du mur de Berlin, conscient que nous avions le dernier modèle, que c'était le nôtre, le libéralisme, est devenu folle furieuse.
Qu'est-ce que vous faites, vous, pour sortir de ce théâtre d'ombre ?
Ah, mais pour sortir du théâtre d'ombre, d'abord, je retrouve le peuple. Je rediscute avec les citoyens. Je purge l'immense colère qui s'est accumulée depuis 30 ans.
En faisant quoi ?
En faisant parler. Il y a un déficit de parole, vous le voyez bien, France Culture, et partout. Mais vous le sentez. Il y a un déficit. On ne me construit pas sur une telle colère. Si vous voulez passer outre, elle explosera. Et vous avez dit les uns et les autres ce qui pourrait advenir. Et ensuite, il y a un moment, lorsqu'on a vidé son cœur, c'est pareil dans une famille, lorsque vous êtes contrarié, vous avez envie d'ouvrir les volets, de remettre de la joie, et à ce moment-là, un programme va s'esquisser et je le porterai. Et ce projet,
c'est plus une façon d'être en politique que de faire de la politique.
C'est une façon d'être et c'est une façon de se comporter. C'est une manière aussi d'incarner autre chose, parce que la politique, ce n'est pas uniquement additionner des chiffres, mais c'est sentir les ondes, les pulsions, c'est sentir son temps.
Vous alors, dites un déficit de parole, mais vous l'avez évoqué aussi, il y a un déficit de notoriété et du coup de crédibilité pour porter ça. Comment vous comblez ça, vous ?
Ah mais écoutez, suivez-moi, vous le savez, n'importe où en France, vous allez voir immédiatement, j'ai un attroupement autour de moi, hein, quelles que soient les strates. Donc c'est pas un déficit. Il n'y a que pour les sondages d'opinion où ça pose problème, parce qu'ils n'ont pas encore trouvé mon orthographe pour me faire figurer parmi ceux qui pourraient être sondés. Mais sinon tous les autres, si un gars qui a fait le tour de France, réunissant 100 télévisions internationales, type qui a fait la grève de la faim, qui détient le record du monde des survivants d'aujourd'hui, n'est pas connu, c'est un type qui a chanté à l'Assemblée nationale, n'est pas connu, certainement un qui est connu, mais 1000 fois plus que Macron.
Voilà, et qui passe à France Culture. Merci,
merci
beaucoup,
à vous,
Jean Lassalle,
merci.
D'avoir accepté
c'est toujours un bonheur, invitation. C'est France Culture.
Une perturbation traverse le pays, un ciel plus couvert sur la moitié nord. Le pourtour méditerranéen reste à l'écart, température 12 à 23 degrés cet après-midi. Édition réalisée avec Yacine Bouzard. Prochain journal 18h, Antoine Dénécher.